Musicopolis. Pergolèse, Naples, 1736. Les voyageurs qui passent par Naples lors de leur grand tour à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe insistent tous sur la puissance du clergé. L'Écossais Burnet calcule que les possessions des gens d'église représentent les 4/5 de tout le royaume de Naples. Les richesses, écrit-il, qui se trouvent dans la seule ville de Naples passent l'imagination. L'on compte 24 maisons de l'ordre des dominicains, tant de l'un que de l'autre sexe, 22 des franciscains, 7 de jésuites. Outre les couvents des moines de la montagne des Oliviers, des théatins, des carmélites, des bénédictins et surtout des chartreux, qui logent sur le flanc d'une montagne qui s'élève au-dessus de la ville, dans une situation agréable, et qui sont aussi fort riches. Les biens de l'Annunziata sont prodigieux. C'est le plus grand hôpital qui soit au monde. On dit qu'il a de revenus 400 000 écus. Le président de Brosse, dans ses Lettres d'Italie de 1739, revient sur les récits des voyageurs qui l'ont précédé. S'ils veulent louer les églises pour leur grand nombre et les richesses immenses qui y sont prodiguées, j'en suis d'accord. Pour le goût et l'architecture, c'est autre chose. L'un et l'autre sont à mon gré, la plupart du temps, assez mauvais. Les dômes sont oblongs, de vilaine forme, sans lanterne au-dessus, les tremblements de terre les ayant renversés. Véritablement, les maîtres hôtels et surtout les tabernacles y sont dignes de remarque, superbes et ornés de marbre et de pierres précieuses avec une étonnante profusion. George Berkeley, un voyageur irlandais qui séjourne à Naples en 1717, décrit avec un brin d'ironie la manière dont il passe le temps. Le principal divertissement est constitué par la dévotion de nos voisins. Outre la joie qui règne dans les églises, où les gens vont voir ce qu'ils appellent une belle dévotion, c'est-à-dire une espèce d'œuvre religieuse, ils tirent des feux d'artifice chaque semaine par dévotion. Les rues sont souvent dorées de tapisseries par dévotion. Et chose encore plus étrange, les dames invitent chez elles des gentilshommes et les entretiennent avec de la musique et des gâteaux par dévotion. En bref, si ce n'était pour la dévotion de ses habitants, Naples aurait à se vanter de peu de choses, à l'exception de son air et de sa situation.
Oh,
Les Napolitains impressionnent les visiteurs par leur dévotion. Et néanmoins, certains voyageurs analysent leurs pratiques religieuses d'une manière un peu plus subtile, comme le fait par exemple Guyot de Merville. Ils sont fort dévots, mais ils ne sont pas fort pieux. Je m'explique. Ils aiment les églises, les chapelles, les confréries, les rosaires, les chapelets et tout ce qu'il y a de plus charlatan dans la religion. Ils paraissent croire facilement les miracles et lorsqu'ils se découvrent quelques nouvelles images miraculeuses, on ne voit que trop de gens qui y courent avec des présents et des offrandes. Ils sont de toutes les confréries, de tous les saluts, de toutes les prédications et de toutes les assemblées de piété. En un mot, ils n'épargnent rien pour passer pour des gens pieux. Mais tout cela n'est qu'un vain extérieur. Les Napolitains ne sont pas trop amis du pape, ni des lois qu'il établit à l'égard de la religion. Bien loin de là, s'il y a une nation en Italie qui soit portée à une réforme, ce sont les Napolitains. Témoins les prisons de l'Inquisition qui sont remplies de personnes de leur nation. Le clergé très riche et puissant de Naples a bien sûr un rôle très important dans la ville. Déjà sur le plan foncier, tous les religieux, de quelque ordre qu'ils soient, qui ont des maisons à Naples, ont le droit d'acheter à droite et à gauche toutes les maisons qui touchent les leurs, jusqu'au bout de la rue. Une partie de leur richesse vient aussi de ce qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt. Mais en contrepartie, ils doivent faire la charité. On voit donc un peu partout devant les couvents des genres de soupes populaires qui donnent aux pauvres de quoi ne pas mourir de faim. Dans une ville et un pays aussi musicien que Naples, on se doute que toutes les manifestations de dévotion se font à grand renfort de musique. Voici par exemple comment le comte de Caylus décrit la fête de Saint-Janvier. Le lieu était superbement tapissé jusqu'à toute la voûte. Sur un autel orné d'argenterie, comme on les voit communément à Naples, on apporta le chef du saint. La veille, on chanta les vêpres par une belle et nombreuse musique. Le lendemain, sur les 22 heures, la procession fut devancée par quatre des principales musiques des églises de la ville. Le vice-roi et la vice-reine, par parenthèse tous deux de très vilaines figures, assistent à tout, sous un dais préparé en face de l'autel. Au son de la magnifique musique, défilèrent tous les moines de la ville. Et c'est en vérité beaucoup dire, leur marche dura 2 heures, quoiqu'ils ne fissent que défiler, entrant par une porte et sortant par l'autre. On fait bien sûr de la musique dans toutes les églises de Naples et les musiciens trouvent sans peine à s'employer. Tous les styles se côtoient, y compris celui déjà archaïque de Palestrina. À côté du style très ancien de Palestrina, les musiciens napolitains modernes savent montrer toute leur invention et imagination, et aussi leur goût pour un décorum nettement moins austère. On peut remarquer aussi qu'à l'exception de Francesco Durante, le professeur de composition de Pergolèse, tous les compositeurs de musique religieuse sont également des experts en musique dramatique et fournissent les théâtres de la ville aussi bien d'opéra héroïque que d'opéra bouffe. Ainsi, Francesco Feo, l'un des plus renommés pour sa musique et ses talents de pédagogue, écrit-il une musique très colorée, comme ce Gloria agrémenté de trompettes qui pourrait tout aussi bien introduire l'air d'un guerrier dans un opéra. Tout aussi brillante est l'entrée du chœur qui va dialoguer avec l'orchestre comme le feraient deux personnages en représentation. Thank you. Francesco Feo, né à Naples, a fait ses études au conservatoire Santa Maria della Pietà dei Turchini, l'une des quatre écoles napolitaines, jusqu'en 1712 avec ses camarades Leonardo Leo et Giuseppe De Maio. Comme ses collègues, il est aussi à l'aise à l'opéra qu'à l'église. Il enseigne de nombreuses années au conservatoire Sant'Onofrio. En 1739, il change d'école pour prendre le poste chez les pauvres de Jésus-Christ, pour succéder à Francesco Durante, le professeur de Pergolèse. Et il est remplacé par Leonardo Leo. En fait, il y a de constants échanges entre les conservatoires. Tous les compositeurs apprennent avec les mêmes professeurs et les générations se succèdent, pour ainsi dire, en famille. Par exemple, le professeur de Feo et Leo, Nicolas Fago, a passé 35 ans à enseigner et il a formé des générations de musiciens. Fago a enseigné à ses élèves toutes les techniques d'écriture, aussi bien pour la scène que pour l'église. Et dans une région où ces deux genres sont aussi prisés, il est normal qu'ils se rejoignent. C'est ce qui se passe d'une certaine manière dans le drame sacré, un genre d'oratorio représenté en costume. Les musicologues s'accordent aujourd'hui pour penser que le chef-d'œuvre de l'oratorio napolitain est La Colomba Ferita de Francesco Provenzale, une œuvre très souvent reprise dans le dernier quart du XVIIe siècle et qui raconte l'histoire de Sainte Rosalie. La Colomba Ferita, modèle de drame sacré napolitain, mélange plusieurs influences, notamment celle du théâtre religieux romain et celle du style bouffa, avec des personnages qui parlent chacun dans sa langue régionale. C'est une suite de récitatifs qui suivent l'action et d'airs dans lesquels les protagonistes peuvent exprimer leurs sentiments, avec aussi quelques ensembles plus comiques.
E sì, lo sto abbroccato.
Per dirla fra di noi, per niente l'ha piaciuta. Vuol sentirvi cantar sulla battuta.
Come si può portare la battuta e cantare?
Forse cantate un'altra villanella, che io servirò da mastro di cappella.
Faccia come vuoto, vai a su. Che iamba buona o pomodoro mio faccia d'argento va o pomodoro mio faccia d'argento va stu cuore sole scivola da sola
mamma mia che vende benvenera,
bruna
il grisondolo. Su tutto ammato un tata, doppa la schiena fa. Su tutto ammato un tata, doppa la schiena fa.
E mare tiempe trona la susia.
Una cadiru di cielo per cui
luna
pira di sombola
pacchiana
mosco tu
ma c'è giso da patrata
bruna pira di sombola
pacchiana
non posso tu
posso giso per mamma ta
posso giso per nonni.
Le jeune Pergolèse a été à bonne école pour écrire à son tour des drames sacrés. Il a eu pour professeur Francesco Durante et aussi Francesco Feo, qui l'a remplacé pendant un voyage à Londres. Il maîtrise parfaitement le récitatif, la polyphonie vocale, et il sait dégager la force dramatique d'un livret d'oratorio ou d'opéra. Au Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ, la seule des quatre écoles napolitaines à être tenue par des ecclésiastiques, les élèves ne sont pas autorisés à participer à des concerts profanes, et donc ils sont naturellement poussés vers le répertoire religieux. Pas étonnant donc que les toutes premières œuvres de Pergolèse soient deux oratorios datés de 1731, peut-être des travaux de fin d'études, La mort de Saint-Joseph et La conversion de Saint-Guillaume. Il écrit en particulier pour Saint-Guillaume, rôle de castra soprano, un air très émouvant en fin d'ouvrage, accompagné par un violon solo qu'il tenait peut-être lui-même lors des représentations données à l'été 1731 dans le cloître de Sant'Agnello. Dans cette première œuvre de Pergolèse, ce drame sacré, écrit à l'âge de 21 ans, comme c'est le cas chez ses collègues napolitains, on entend aussi un joyeux mélange des genres. Et à côté du grand lyrique, tel qu'on vient de l'entendre, on trouve des passages dans la veine bouffe, en dialecte napolitain.
Son pazzuto.
Sei perduto.
Come stato? Che me dato?
Torna al mondo.
Sei perduto.
Com'è stato?
Torna al mondo.
Non me suona.
Torna.
Oh, peccato, peccato, peccato. Che metà, che metà.
Un duetto extrait de Saint-Guillaume d'Aquitaine de Pergolèse, Giorgio Patti bariton, Peter Heron bass, avec l'orchestre de chambre de la province de Terni, dirigé par Fabio Maestri. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Pascal Bénard pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.